Sofiane Bignoussi, bonjour.
Bonjour.
On l'a vu, les technologies, leur déploiement ont été accélérés par cette crise. Ils sont en train de nous montrer finalement que peut-être les modèles traditionnels commencent à s'essouffler. Est-ce que vous parlez d'accélération réelle, renforcée de cette transformation numérique dans ce Covid-19 et potentiellement dans cet après-Covid ?
Absolument. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la pandémie actuelle a véritablement permis de tester, de mettre à l'épreuve les limites des scénarios de continuité d'activité des entreprises et des organisations en général. Mais une fermeture complète de pans entiers de l'économie, de certains types d'activités, de confinement, c'est une véritable occasion pour nous de nous former aux nouveaux usages du digital et aussi d'accélérer cette transformation numérique. Et on l'a vu déjà avec des millions de télétravailleurs de par le monde, mais aussi forcément des entreprises qui n'ont pas eu d'autre choix que de s'adapter à la volée en transférant leurs données, notamment sur le nuage et en digitalisant certaines de leurs opérations.
On peut dire que l'apport de l'intelligence artificielle dans les solutions qui ont été mises en place durant cette crise, et notamment dans le secteur de la santé, c'est quoi principalement ? Est-ce que c'est sur le tri des patients, sur le diagnostic, sur la prédiction, sur la découverte des médicaments qu'on a eu le plus d'effets ?
Alors c'est sûr que les outils numériques sont si vastes qu'ils peuvent endosser une multitude de rôles, autant dans les moyens de détection, de communication et d'information. En matière de détection, plus particulièrement, les outils numériques spécifiquement destinés au secteur de la santé, dont la télésanté, s'ils sont jumelés à de l'analyse de données qui permettent notamment la surveillance des patients à distance, cela permet de pouvoir collecter leurs données à distance, surveiller leurs signaux physiologiques et ultimement améliorer la prise de décision pour les professionnels de la santé et améliorer la gestion des hôpitaux au bénéfice des patients et des professionnels de la santé. Ce qu'il faut noter par contre, c'est que avant la crise, le Québec avait, pour ce type de technologie, avait accusé un certain retard dans l'adoption par le système de santé de ces technologies numériques. Et c'est certain que la crise a accéléré l'adoption de ces technologies qui sont déjà maintenant en phase de test dans plusieurs hôpitaux, notamment à Montréal. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la crise a en quelque sorte ouvert des portes en exacerbant les lacunes du système, mais aussi en voyant ces outils comme des outils qui ne sont pas suffisamment exploités. Et donc, même s'ils ne règlent pas tout, ils peuvent offrir un véritable rôle de support aux professionnels, rassurer le public, prévenir l'engorgement du système de la santé. Et il faut vraiment dorénavant les considérer comme des nouveaux acquis qui sont des opportunités d'investissement plutôt que comme des sources de coûts additionnels.
Mais j'imagine, Sofiane, que dans l'esprit des ingénieurs, parce que les ingénieurs, ils ont besoin, et c'est normal, comme tous les chercheurs, de temps pour mettre en place les solutions. Là, on a été pris par le temps, on a été pris par le besoin. Comment ça se passe dans un esprit d'ingénieur, une telle situation ? Est-ce qu'on n'est pas un petit peu tiraillé entre ces deux positions, ces deux réalités finalement ?
C'est sûr que la contrainte est mère de créativité aussi, ce qu'il faut comprendre. Un contexte d'incertitude est propice aussi à de l'innovation accélérée. Par contre, il y a certaines phases ou certaines étapes qui sont incompressibles malgré les avancées technologiques et malgré cette accélération. Et c'est pour cela qu'il faut ne pas brûler certaines étapes et toujours prendre en considération le facteur humain qui reste primordial à mon sens.
Chez Innovitech, vous rassemblez différentes entreprises, différentes institutions qui sont vouées justement à l'innovation. Comment elles s'adaptent à la pandémie actuelle ? Est-ce que vous avez eu des retours de certains de vos membres ? Est-ce que certains sont en difficulté ? Ou au contraire, est-ce que, comme vous semblez le dire, cette accélération est un bienfait finalement ?
Il est certain qu'il y aura des délaissés. Il y aura des personnes et des entreprises et d'autres types d'organisations qui seront durement impactées par la crise, et ça, il ne faut pas l'oublier. Toutefois, il faut considérer que nous sommes très actifs à supporter, à préparer cette relance économique. Et aussi, on est très actifs à supporter nos clients actuels, à pouvoir répondre efficacement non seulement à la crise, mais aussi à préparer l'après-crise. C'est pour ça que plusieurs de nos clients ont été d'ailleurs sollicités par les gouvernements pour faire appel à ces nouvelles solutions technologiques, notamment issues des startups et des PME, pour aider à combattre la Covid-19. Mais l'idée, c'est d'accélérer le développement et la commercialisation de ces solutions. D'ailleurs, un de nos clients, le consortium d'innovation en technologie médicale, MedTech, travaille déjà sur plusieurs initiatives et a réellement été témoin d'une mobilisation extraordinaire du milieu et aussi d'un très très bon soutien des ministères.
Mais s'il y a des usagers qui nous écoutent puis qui se disent c'est formidable parce que là ça accélère et les innovations et les solutions vont sans doute pleuvoir, comment concrètement ils vont avoir accès à ces solutions? Est-ce que finalement durant cet été, cet automne, des aides aux personnes âgées, des solutions en télémédecine qui existent pour la plupart évidemment déjà mais qui sont en train aussi de s'accélérer comme vous le disiez, ou bien tout simplement des robots conversationnels comme on le voit chez certains de vos membres, est-ce que tout ça on va pouvoir y avoir accès dans peu de temps finalement?
C'est sûr que ça prend un rythme d'absorption. Le rythme de déploiement de ces technologies se fera en concertation avec l'ensemble du milieu. Mais vous avez mentionné les robots conversationnels qui utilisent l'intelligence artificielle, qui représentent vraiment une solution pour venir en aide aux gens qui croient avoir été exposés. Certaines de ces solutions moins invasives pourront être déployées plus rapidement. D'autres solutions un peu plus gérés vont prendre un peu plus de temps, notamment concernant la recherche ou la modélisation pour mener à un vaccin. On a vu déjà des succès, des étapes franchies par des compagnies, une compagnie biopharmaceutique québécoise, notamment Medicago, dans le développement d'un vaccin et d'anticorps contre la COVID-19. Mais cela dépendra, je dirais, des créneaux et des segments du secteur. C'est un vaste secteur.
Malgré toute cette réponse d'urgence, l'IA va avoir besoin, ce que je comprends vraiment de votre position, va avoir besoin de prudence, de faire preuve de prudence. C'est le mot d'ordre finalement qui semble émailler l'ensemble des interventions depuis le début. En même temps, l'autre prudence dont on a envie de parler et puis qui préoccupe un grand nombre d'usagers, c'est la prudence sur le plan éthique. On voit que beaucoup de solutions justement numériques sont en train de fleurir, des solutions de traçage des personnes infectées. Vous, comment vous positionnez par rapport à ça? Est-ce qu'on a raison d'avoir peur?
Absolument. Il faut comprendre que l'utilisation de l'intelligence artificielle et de ces nouvelles technologies contribue largement à la lutte contre la crise et démontre une efficacité, mais parfois au prix d'un renoncement important à certaines libertés individuelles. Et ce qu'on constate, c'est clairement une différence d'approche et de moyens aussi au sujet de l'usage de ces nouvelles technologies entre les pays, par exemple, du sud-est asiatique et la majorité des pays occidentaux. Dans ces pays asiatiques, l'intelligence artificielle est utilisée à tous les niveaux de la lutte contre l'épidémie, de la détection des foyers de contagion à la recherche de traitements en passant par le diagnostic médical. Mais par contre, dans les pays occidentaux, il est légitime de se demander pourquoi on n'utiliserait pas ces technologies, mais ça prend un vrai débat pour essayer de balancer le bénéfice de l'efficacité versus l'impact sur la protection des libertés individuelles et l'éthique.